Doha, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition spéciale du mardi 5 avril 2023, consacrée pour l'essentiel à l'inculpation officielle hier devant le tribunal de New York de l'ancien président américain Donald Trump. Il a plaidé non coupable de falsification de documents comptables lors d'une audience pénale sans précédent qui a réveillé les passions aux États-Unis. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia en compagnie de Dili Diko à New York, Mohamed Humfa à Washington et nos invités, le juriste d'origine congolaise Camille Baba, le professeur Mohamed Mbodj de Manhattan College à New York et l'avocat Dennis Beaver de Bakersfield qui a voté deux fois pour M. Trump. Après sa comparution mardi devant un tribunal de New York pour son inculpation officielle et de retour dans sa résidence en Floride, l'ancien président américain Donald Trump s'est adressé à ses nombreux partisans réunis pour lui témoigner leur soutien. Mohamed Humfa vous résume son discours.
Je n'aurais jamais imaginé cela possible en Amérique, a-t-il lancé depuis la grande salle de réception de sa luxueuse résidence de Mar-a-Lago, la même pièce dans laquelle il avait annoncé sa troisième candidature à la Maison-Blanche le 15 novembre dernier. Le seul crime que j'ai commis, c'est de défendre courageusement notre nation contre ceux qui cherchent à la détruire, a assuré l'ancien président devant ses partisans qui arboraient des cravates, pas de crime, et des chapeaux Trump 2024. C'est une ingérence électorale massive, a dénoncé Donald Trump, critiquant vivement le procureur new-yorkais Alvin Bragg, qui est un élu démocrate. Le milliardaire s'est longuement épanché sur chacune des autres enquêtes dont il fait l'objet, de ses pressions exercées sur des responsables électoraux en Géorgie à la gestion de ses archives de la Maison-Blanche, fustigeant à chaque fois des investigations frauduleuses. Un pays plongé dans la violence et la criminalité, un risque de troisième guerre mondiale, un dollar qui s'effondre, Donald Trump n'a pas eu de mots assez durs pour dénoncer le bilan de son successeur, le démocrate Joe Biden. Ce dernier est lui resté très discret face à l'inculpation de son rival républicain, cette comparution n'étant pas une priorité selon la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre.
Merci Mohamedou. Pour revenir sur la journée d'hier, nous retrouvons notre envoyé spécial à New York, Dili Diko, pour un rappel de ce qui s'est passé au tribunal.
L'ancien président Donald Trump a été inculpé de 34 chefs d'accusation dans un acte d'accusation de 16 pages. Le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, a détaillé un plan élaboré avec des paiements faits pour obtenir le silence d'une actrice de film pour adultes et supprimer des informations qui sont préjudiciables à Trump, qui était alors candidat, donc peu avant les élections présidentielles de 2016. Lors de cet événement historique et très sécurisé qui s'est déroulé mardi, Donald Trump a été notifié qu'il est en état d'arrestation. On lui a lu ses droits, appelé ici Miranda Rights, puis on a pris ses empreintes et par contre il n'y a pas eu de photos prises lors de l'arrestation qu'on appelle ici aux États-Unis le mugshot, donc pas de mugshot. Et ensuite, après avoir entendu la liste des chefs d'accusation, Donald Trump a, comme on s'y attendait, plaidé non coupable des faits qui lui sont reprochés. Il devient donc le premier ancien président des États-Unis à faire face à des poursuites pénales. Et pendant ce temps, pendant que tout ça se passait dans la cour, les partisans et les opposants continuaient à brandir leurs pancartes à l'extérieur de la cour avec des bruits de sifflets, des chants, sous les yeux des nombreux policiers. Et ensuite, Donald Trump a pris l'avion en fin d'après-midi, après cette journée très mouvementée à New York, pour retourner dans son fief à Mar-a-Lago, en Floride, où il a fini par prendre la parole à son arrivée.
Le procureur Alvin Bragg a tenu une conférence de presse après l'inculpation officielle de M. Trump. De nouveau, Dili Diko.
Pendant cette conférence, Alvin Bragg a déclaré que l'ancien président Trump a fait à plusieurs reprises de fausses déclarations sur des documents officiels de la ville de New York et qu'il a également poussé d'autres personnes à faire de fausses déclarations. Et le procureur a ensuite affirmé que, comme son bureau l'a fait à maintes reprises, il assume leur responsabilité solennelle de veiller à ce que tout le monde soit égal devant la loi. Et il a ensuite conclu en soulignant qu'aucune somme d'argent ni aucun pouvoir ne changera ce principe américain qui est immuable, selon ses propos, donc l'égalité devant la loi.
Merci Dilly.
VOA Afrique en direct de Washington.
Le Monde aujourd'hui, édition spéciale sur l'inculpation officielle hier devant un tribunal à New York de l'ancien président américain Donald Trump. Nous passons maintenant à nos invités et à leurs réactions et analyses. Tout d'abord, le juriste d'origine congolaise Camille Baba, je lui ai demandé de nous expliquer ce que dit l'acte d'accusation contre M. Trump.
Pendant ce qu'on appelle arraignement, c'est-à-dire qu'on présente les actes d'accusation à un citoyen libre. À partir de ce moment, tu as le droit de dire que moi, je ne connais rien, je connais, ou je vais dire que voilà, il y a ce qu'on appelle insanité, c'est-à-dire qu'il y a des troubles mentaux. Notre président a dit que voilà, not guilty, je ne connais rien. Et à partir de ce moment, ça va aller prendre le cours de la justice, on va aller au tribunal. Les détails des accusations ne sont pas toujours donnés à 100% en ce moment. Mais le procureur va dire que voilà, nous avons un cas et ce monsieur, le grand jury, a dit que voilà, il est coupable.
Il a été donc officiellement inculpé. Les charges, bon, n'ont pas été détaillées, mais on sait en gros ce que lui reproche le procureur de New York, n'est-ce pas?
Oui, nous avons en gros. Il y en a deux qui sont vraiment... les autres, ce sont des accusations qui peuvent se terminer avec des amendes. Mais quand il y a la criminalité, c'est lui qui a l'intention. L'intention criminelle. Parce que la justice américaine, même si tu as volé, même si tu as tué, il faut voir l'intention. Est-ce que l'acte de l'accusé, est-ce qu'il avait une intention criminelle? Et là, le procureur a prouvé, le grand jury a prouvé que voilà, il y a eu une intention criminelle. L'intention criminelle, c'est que l'argent que le président... pour quelque chose qu'il connaissait, devait être payé. Mais il a personnellement demandé à son avocat de ne pas payer ça, de garder cette histoire après les élections. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas que cette histoire sorte pour que ça vienne faire une tache noire sur la campagne électorale. Et là, c'est contre les lois électorales.
Parfait. Alors, le prochain rendez-vous au tribunal a été fixé à décembre. Qu'est-ce qui va se passer entre-temps?
Tout le monde, tout citoyen n'est pas... Tu n'es pas guilty, tu n'es pas...
Il a plaidé non
voilà,
coupable.
Tu n'es pas condamné jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que tu passes le système de justice au tribunal. Donc c'est comme tous les citoyens.
L'accusation s'est plainte des posts de M. Trump sur son réseau social, les considérant comme des menaces contre le procureur et son bureau. Mais le juge a décidé de ne bâillonner aucune des deux parties, tout en invitant à la prudence. Qu'est-ce que vous en pensez?
Il y a ce qu'on appelle la libre expression, le droit de s'exprimer, constitutionnellement, le premier article de la Constitution, sur les droits de s'exprimer, le droit à la parole. Donc, il peut dire ce qu'il veut, mais quand ça devient une menace contre le système de justice, le juge, les témoins ou le procureur, là, le juge, en fait, j'aime bien la décision du juge. Le juge vient de lui dire que voilà, les gars, maintenant tu sais que si je fais quelque chose prochainement, il y aurait un ordre de bâillon. Le système de justice américain, c'est le jury qui décide. Et ça peut jouer à contrebalance. Le jury peut voir ça comme un bandit, un voyou, qui est en train de menacer notre système de justice. Et même nous, les membres du jury, ils vont nous menacer si on le dit. Et là, ça peut jouer contre lui.
Merci beaucoup, Monsieur Baba. Merci.
Merci à vous.
Le juriste Camille Baba, il est originaire de Kinshasa, en RDC. À New York même, j'ai joint le professeur Mohamed Modj de Manhattan College. Il commence par replacer dans un contexte politico-historique l'inculpation officielle de M. Trump.
Un ancien président a été inculpé d'un crime. Dans l'histoire des États-Unis, cela ne s'est jamais passé. La deuxième chose, c'est que c'est dans sa ville natale, la ville où sa famille a pris racine, et dans la ville qui est la plus représentative de ce qu'il a pu accomplir dans sa vie. Et troisièmement, c'est un peu l'humiliation de devoir, comme un simple citoyen, répondre devant la loi.
Alors, professeur, que pensez-vous du procureur Alvin Bragg, qui a été beaucoup attaqué par M. Trump et ses partisans qui l'accusent de parti pris et de chasse aux sorcières, ainsi de suite?
Il y a un peu ce que les Américains appellent le dog whistle, parce que Bragg est un noir, et ensuite le juge qui préside donc n'est pas qu'un blanc chrétien originaire d'Europe. L'autre tête de turc, entre guillemets, c'est évidemment Letitia James, qui est l'attorney général de l'État de New York. Il faut se souvenir que Trump a bâti son succès récent en s'attaquant à Obama, en lui déniant la nationalité américaine et tout ça. Donc il y a une ligne qui se rapproche un tout petit peu d'un certain rappel des origines des gens. C'est aussi une manière d'étouffer le scandale, de tout rapporter, de s'apitoyer et d'avoir la sympathie de ses fidèles.
De façon générale, que pensez-vous de l'acte d'accusation?
L'accusation est fondamentalement une accusation de crime, pas de délit, mais de crime. C'est-à-dire qu'il a falsifié des records financiers, des dossiers financiers, des rapports, et n'a pas payé de taxes sur de l'argent qu'il a pu débourser à partir de ses fonds électoraux et qu'il n'aurait pas dû, qu'il n'aurait pas pu débourser pour payer ses dettes personnelles. Donc tout cela sont des délits, et le fait de falsifier maintenant pour cacher la finalité de ces débours d'argent, c'est ça qui est le crime.
Maintenant, sur le plan politique, Trump est candidat à la présidence pour 2024. Comment est-ce que vous voyez la suite?
Pour l'instant, il est très occupé à essayer d'écarter tous ses opposants, mais aussi apparaître comme le seul candidat valable et possible et viable pour le Parti républicain. Et à ce moment-là, les 50 ou 60% de républicains qui peut-être ne l'aiment pas du tout ou n'auront pas d'autre choix que de voter pour lui. Et évidemment, il pense à une revanche contre Biden, et c'est un peu le combat du siècle, un tout petit peu comme dans le folklore américain, on a vu les revanches entre Foreman et Muhammad Ali, Franklin et Muhammad Ali, etc. Il y a même le film du boxeur de Philadelphie, comment il s'appelle encore, voilà, c'est un peu de cette sorte d'aventure qu'il veut, et il pense que d'ici là, beaucoup de choses vont se passer en sa faveur, mais pour l'instant, il est surtout préoccupé à détruire ses opposants républicains plutôt que d'attendre toute une série de primaires qui risquent de faire mal.
Vous pensiez à Joe Frazier, n'est-ce pas?
C'est ça, voilà, voilà.
Merci, professeur, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Le professeur Mohamed Modj de Manhattan College à New York. Pour avoir une idée plus précise sur la réaction des républicains, j'ai contacté l'avocat Dennis Beaver de Bakersfield, en Californie. Il nous dit d'abord ce qu'il a retenu de l'acte d'accusation en tant qu'avocat.
J'ai été très heureux de voir ce qui s'est passé. On a Trump qui se trouve devant des juges, même qui pense qu'il n'a rien fait. Il sait très bien que c'est probablement un moment le plus sérieux, le plus dangereux dans sa vie publique.
Vous êtes conscient du fait que les républicains, dans leur grande majorité, ne partagent pas votre point de vue?
Oui, certainement. Les républicains qui soutiennent et la plupart des gens dans le Congrès sont avocats. Et ça, très bien, ce qu'il a fait, et il faut que ce soit jugé.
Alors, quelles sont les chances du procureur ou les chances de la défense de gagner dans ce procès qui va venir?
Si le jury regarde les faits, les documents, il sera trouvé coupable. Mais tu sais, la publicité, c'est un mec attractif. On ne sait jamais ce jury peut faire. Tu sais, je suis avocat, plus de 50 ans comme avocat. On ne sait jamais ce que les membres du jury en Amérique vont faire. On ne sait jamais.
Vous avez entendu M. Trump dans son discours à son retour en Floride. Qu'avez-vous retenu quant à son éventuelle défense dans ce cas précis?
C'est un film qu'on revoit jour après jour. C'est pas ma faute, j'ai rien fait. Il y a des complots contre moi. Les démocrates sont contre moi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Eh bien, c'était l'avocat Denis Beaver de Bakersfield en Californie. Merci à Denis. Au juriste Camille Baba, au professeur Mohamed Modj de Manhattan College à New York, Firmin Koyaweda à la mise en onde et Mohamedou Humfa que nous retrouverons à la fin de cette demi-heure pour le reste de l'actualité. Maintenant, quelques dossiers du jour. Nous commençons par le Togo, le Rwanda plutôt et le Kenya qui s'engagent à accompagner les efforts de la communauté est-africaine pour trouver une issue au conflit de l'Est de la République démocratique du Congo. Indication faite à Kigali par les présidents Paul Kagame et William Ruto à l'occasion d'une visite de 2 jours du président kenyan au Rwanda. Le point avec Jean Demasen Manishimwe, notre correspondant au Rwanda.
Renforcer la coopération commerciale entre le Rwanda et le Kenya, ainsi que stabiliser l'Est de la République démocratique du Congo et la région de l'Afrique de l'Est en général. Ce sont les points qui ont marqué les échanges entre le président rwandais Paul Kagame et son homologue kenyan William Ruto. Le périple du président kenyan intervient alors que son pays pilote la force des États d'Afrique de l'Est en République démocratique du Congo. Le président William Ruto s'est dit optimiste quant à la stabilisation de la RDC.
Avec la mise en place des forces provenant des différents pays, il y a eu une évolution de la situation. Il y a eu même le mouvement des groupes armés à l'est de la RDC pour respecter le cessez-le-feu et les lieux de cantonnement. Nous avons observé beaucoup de mouvements dans cette direction. Nous sommes confiants qu'avec cette compréhension élargie et le travail en commun, et je remercie les chefs d'État de l'EAC pour donner le leadership dans cette région. Et nous travaillons ensemble pour stabiliser l'Est de la RDC pour que le Congo ait des élections paisibles.
Pour sa part, le président rwandais Paul Kagame, accusé par la RDC de soutenir les rebelles du M23, a encore une fois indiqué que son pays va continuer à appuyer les mécanismes de paix régionaux, ajoutant que le conflit congolais nécessite une réponse durable.
Nous remarquons une certaine évolution, bien qu'il y ait beaucoup d'autres défis à surmonter. Il y a du progrès et nous devons faire davantage vers une solution. Je pense que la meilleure façon de résoudre de tels problèmes est d'étudier et d'analyser les causes profondes d'un tel problème ou des autres problèmes ailleurs. Quand tu ne t'attaques pas à une cause profonde, tu trouves une solution partielle et les problèmes reviennent à tout temps.
Le président kenyan a laissé entendre que le Rwanda est un allié essentiel pour la stabilisation de la région. Pour sa part, le Rwanda considère le Kenya, principale économie de la sous-région, comme un partenaire clé qui lui sert de porte d'entrée à l'océan Indien, une voie essentielle pour les exportations et importations du Rwanda. Jean Damasen Manishimwe pour VOA Afrique, Kigali.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Togo, le SMIG, salaire minimum interprofessionnel garanti, a connu une hausse de 50% depuis le 1er janvier 2023. Il est passé de 35 000 francs CFA à 52 500 francs CFA, Trois mois plus tard, les entreprises peinent à appliquer la mesure. Des rencontres tripartites, gouvernement, patron d'entreprise et syndicats des travailleurs, sont organisées pour mener des réflexions sur le sujet. De Lomé, notre correspondant Kossi Wousso.
À l'annonce de l'augmentation du SMIG applicable au secteur privé au Togo, les travailleurs avaient poussé un ouf de soulagement. Les organisations de la société civile, à l'exemple de l'association Veille Citoyenne, qui ne cessait d'appeler à la revalorisation du SMIG, avaient salué ce qu'elles considéraient comme une avancée. Pilenam Sama, président de Veille Citoyenne.
De 2012 à 2022, c'était le calvaire. Vous savez que le coût de la vie a considérablement augmenté. Donc c'était intenable et ça enfonçait les travailleurs de plus en plus dans la précarité. Donc cette augmentation va permettre aux travailleurs de souffler.
Seulement voilà, trois mois après cette annonce, beaucoup d'employeurs traînent les pas pour se conformer à la décision. Ils évoquent la conjoncture économique du pays. Pour Laurent Tamignon, le président du patronat togolais, les employeurs se trouvent dans un dilemme.
Il est clair, les petites et moyennes entreprises ont des difficultés. Déjà, des gens, certains n'arrivent pas à assumer les 35 000 qui étaient là. Et aujourd'hui, on est à 52 000. Que faut-il faire? Est-ce qu'il faut qu'ils puissent, s'ils ont trois employés, abandonner deux et garder un pour pouvoir payer?
Le gouvernement togolais semble prendre la mesure de la situation. Gilbert Bawara, ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social.
Le SMIG est une disposition obligatoire. En même temps, il faut être soucieux et attentif par rapport aux autres enjeux et intérêts que nous poursuivons en commun. Et donc, il faut s'assurer que la mise en œuvre du SMIG n'engendre pas des effets pervers ou indésirables. Nous ne souhaitons pas voir des unités économiques se fermer, des activités cesser en raison de la situation que les entreprises peuvent éprouver par suite de la revalorisation du SMIG.
Antoine Gandjou, secrétaire général de la Fédération des syndicats du secteur de la construction, propose
que le gouvernement prenne des mesures pour accompagner ces petites et moyennes entreprises de sous-traitance dans différents secteurs pendant au moins minimum un an. Sinon, il faut reconnaître que l'accord serait difficile à appliquer et ça va créer encore un système de conflit entre les travailleurs, les organisations syndicales et leurs différentes entreprises.
Depuis le début du mois de mars, des rencontres avec les patrons des entreprises du pays sont initiées pour des propositions idoines afin de trouver des solutions à la situation. Kossi Wousso, Lomé pour VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24 heures sur 24 à Lomé sur 102.3 FM.
La biodiversité au Congo-Brazzaville et la réaction des populations intéressées, c'est un reportage de notre correspondant sur place, Arsène Séverin.
Ici, dans la Songa, à près de 800 km au nord de Brazzaville, la population a sa conception de la préservation de la biodiversité. Elle a ses propres règles et reste convaincue que la viande de brousse ne s'épuisera point.
Ça ne peut pas diminuer parce que la viande, ici à la Sanga, la viande, ça c'est impossible. Nos grands-pères, nos oncles ont travaillé ici depuis quand j'étais encore petit. Bon, maintenant, la viande n'est pas finie.
C'est une analyse. L'étoile a une forêt dense. Et que dit Gabon?
Nous avons encore assez de viande de brousse. Notre forêt est très dense. Elle part d'ici jusqu'au Gabon. Il y a du gibier partout et les générations futures vont se régaler à leur tour.
Les autorités locales n'y vont pas d'une main de fer quand il s'agit de la viande de chasse à consommer sur place. Même les espèces protégées passent souvent dans la casserole. Joseph Muketo est le secrétaire général de la mairie de Wesso, la capitale de la Sanga.
Ce qui est interdit, où certaines espèces ne peuvent pas aller vers Brazzaville. Mais vous pouvez en consommer sur place, tel que vous avez cette espèce protégée de sanglier.
Le gouvernement encourage la population à changer de culture en pratiquant l'élevage et l'agriculture. Mais les habitudes sont dures. Et ici, à Kabo, à plus d'une centaine de kilomètres de Wesso, en pleine forêt, c'est un citoyen d'un pays ouest africain qui donne la leçon.
Ici, les gens consomment les viandes de brousse parce que les moutons, nous on lève le mouton. Si on trouve aussi certaines personnes qui ont aussi dans les besoins, on peut aussi vraiment les vendre. C'est une façon de, si on a aussi l'habitude de souvent de faire des contacts avec les gens qui n'ont jamais fait d'élevage et les motiver et de montrer comment il faut faire l'élevage.
Le Congo n'est pas seul dans son combat pour la préservation de la biodiversité et de l'environnement. Les États-Unis apportent une assistance significative et souhaitent que la population environnante soit prise en compte, tel que le souligne ici Eugene Young, l'ambassadeur des États-Unis.
À peu près de 100 millions de dollars. Ce n'est pas assez, je peux dire. Nous voulons continuer et augmenter notre aide pour ces zones et pour ces groupes là-bas. Promouvoir l'élevage au lieu de chasse des animaux dans les forêts. Il y a des programmes qui soutiennent la création de petites et moyennes entreprises.
Entre le gouvernement qui promet la politique de la préservation de la biodiversité et la population qui vit de la chasse et les produits de la forêt, le combat est loin d'être gagné. Arsène Séverin, du retour de la Sangha, VOA Afrique.
Merci Arsène. Avant de nous séparer, voici un bulletin d'information sur le reste de l'actualité avec Mohamedou Humfa.
Trois médecins guinéens ont été reconnus coupables mardi de la mort en 2021 d'une jeune femme au sein d'une clinique privée. Mam Massila, une secrétaire de 25 ans, était décédée en Tunisie où elle avait été évacuée pour des soins après avoir été violée dans un hôpital de Conakry, avait à l'époque annoncé le gouvernement guinéen. Daniel Lama, Patrice Lama et Célestin Milimuno ont été déclarés coupables de coups et blessures et d'avortement. Monsieur Milimuno et Patrice Lama ont également été condamnés pour viol. Patrice et Daniel Lama écopent de 15 ans de prison chacun. Monsieur Sebori Sissé a lui été reconnu coupable de mise en danger d'autrui et a écopé d'un an de détention. Célestin Milimuno, en fuite, a écopé de 20 ans de prison et un mandat d'arrêt a été lancé à son encontre. 19 militaires centrafricains pris en otage le 14 février par une alliance de groupes rebelles dans le nord de la Centrafrique ont été libérés mardi, a annoncé le Comité international de la Croix-Rouge. Ils avaient été pris en otage par des membres de la Coalition des Patriotes pour le Changement après des combats violents entre militaires et rebelles à Sikikédé, une localité au carrefour des frontières tchadiennes et soudanaises. La coalition rebelle a confirmé l'information dans un communiqué arguant d'une décision volontaire et unilatérale. Au Zimbabwe, des défenseurs des droits de l'homme ont accusé mardi la commission électorale d'avoir divulgué les numéros de téléphone d'électeurs qui ont, selon eux, reçu des messages d'intimidation du parti au pouvoir. Selon l'ONG locale Tim Pachedou, alors que des élections présidentielles et législatives doivent se tenir en août, des électeurs ont reçu des SMS personnalisés en langue shona, comprenant notamment le nom de la circonscription à laquelle ils sont rattachés. Ces informations ne figurent que sur les nouvelles listes électorales et seule la commission électorale est censée y avoir accès, a souligné l'organisation qui a déclaré son intention d'intenter des poursuites. La commission électorale a nié avoir fourni de quelconques données. Un navire humanitaire de MSF, Médecins sans frontières, le Geo Barents, a secouru mardi 440 migrants en détresse à bord d'une embarcation dans les eaux internationales au large de Malte, a annoncé l'ONG. Pendant qu'il cherchait à se mettre à l'abri en Méditerranée pendant une tempête, le Geo Barents a reçu une alerte de détresse et a changé de cap pour porter assistance, a fait savoir MSF. Malheureusement, les conditions météorologiques n'ont pas permis à notre équipe de procéder directement au sauvetage, ce qui aurait pu mettre en danger la vie des personnes et de notre équipe, a-t-elle précisé. Après plus de 11 heures d'opération, un total de 440 personnes, dont 8 femmes et 30 enfants, sont maintenant en sécurité, a indiqué MSF. Des violents affrontements ont opposé dans la nuit de mardi à mercredi la police israélienne à ce qu'elle a présenté comme des émeutiers dans la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, un des lieux de culte musulman les plus emblématiques au monde. Dénonçant un crime sans précédent, le mouvement islamiste palestinien Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza a appelé les Palestiniens de Cisjordanie à se rendre en masse vers la dite mosquée pour la défendre. Ces violences surviennent peu avant le milieu du Ramadan et alors que les Juifs s'apprêtent à célébrer à partir partir de mercredi soir la Pâque et dans un climat de montée de tensions entre Israéliens et Palestiniens depuis le début de l'année.
Merci Mohamedou. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde Firmin Koyaweda, à la console Bob Bass. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.